Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Voilà. Alors on va ouvrir notre Bible. On va s'appliquer à réfléchir sur quelque chose que nous connaissons bien. Nous l'avons entendu dans certaines louanges ce matin, et des louanges, une adoration et peut-être en effet une sorte d'attente de prière. Je voudrais vous parler des soupirs. Vous connaissez le pont des soupirs ? Vous n'avez peut-être pas tous été à Venise, hein ? Voilà. Enfin, il y a toute une histoire derrière le pont des soupirs. J'aimerais justement, voir avec vous, à travers quelques textes de la Bible, ce que peut représenter un soupir. Un soupir, c'est quelquefois lorsque nous nous sommes affligés ou contrariés ou décontenancés. Voilà, on soupire en disant, mais ça aurait pu être autrement. Un soupir, c'est peut-être aussi l'expression d'une attente, d'une vive attente, d'une espérance. Alors, on soupire parce que ça ne vient pas, ou ça tarde à venir. Et puis, il y a parfois, ça m'a fait penser à cela, quand un jeune homme est amoureux d'une jeune fille, on l'appelle un soupirant. Quelle souffrance. Voilà. Hein ? Et il y a maintenant, pour être plus sérieux, je voudrais vous parler des soupirs de l'esprit. Avec un grand E. Oui. Le Seigneur, soupire, et nous voulons aussi soupirer. Alors, pour ce faire, nous allons ouvrir le livre des Cantiques des Cantiques, parce que comme je vous parlais de soupirant, Le Cantique des Cantiques nous présente Dieu dans la personne de l'auteur de ce livre formidable, tellement poétique, qui est personnifié à travers le roi Salomon, puis à travers une jeune fille qui s'appelle la Sulamite. Et il y a un texte où il nous est parlé de soupir dans Cantique des Cantiques, chapitre 4 et au verset 16. Et nous irons chercher encore des expressions ou des leçons en ce qui concerne, le soupir de Dieu, le soupir de l'Esprit, le soupir de l'Église, le soupir de chacun d'entre nous. Alors voilà, Cantique des Cantiques, j'ai cette parole que je lis, que nous partageons. Verset 16, « Lève-toi, Aquilon, viens au temps, souffler sur mon jardin, et que les parfums s'en exhalent, que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange des fruits excellents. » Voilà. Ce qui est extraordinaire, c'est que dans la première partie, c'est Dieu qui soupire. Et il appelle des horizons de la terre, il appelle les vents. On sait que l'Esprit, c'est un vent. C'est le vent de Dieu. Jésus le dira à Nicodème, le vent souffle où il veut, le vent de l'Esprit. Aquilon, c'est le vent du nord, celui qui apporte de la fraîcheur. Et en Orient, il est bienvenu, parce qu'il fait très chaud. Et puis, il est appelé aussi le vent d'Otan, celui qui vient du sud, parce qu'il y a aussi des temps, des hivers, dans cette contrée de la terre, et là, il vient apporter la chaleur. D'un côté et d'un autre, tout est adapté pour, faire l'œuvre de Dieu. Soufflez sur mon jardin. Vous savez que dans la Bible, ça commence par un jardin, on l'appelle l'Éden. Et puis ça finit par un jardin également, dans les derniers chapitres de l'Apocalypse, on en parlera bientôt. Et là, il est question d'un jardin d'amour, parce que ce qui fait véritablement soupirer, c'est véritablement l'amour. Dieu soupire d'amour, oui. Et nous sommes invités à répondre à ce soupir de Dieu. Alors soufflez sur mon jardin et que les parfums s'en exhalent. Il y a des senteurs, il y a un art de grand prix, et qui vient par-delà toute notre imagination. le parfum de l'Esprit de Dieu, le parfum du Saint-Esprit, le parfum de la Pentecôte. Et on va s'expliquer. Et voilà que Sulamite répond, elle, la fiancée, que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange des fruits excellents. C'est beau, hein? Je ne vais pas être le seul à le dire que c'est beau. Timidement, alléluia. C'est bien. Mon bien-aimé, l'invitation de l'Église. Celui qui parle en premier, c'est Dieu, c'est l'époux, c'est le fiancé. La réponse, eh bien, que mon bien-aimé entre dans son jardin. Parce que le jardin de Dieu, c'est l'Église. Le jardin de Dieu, c'est nos cœurs. Et il a mis, finalement, en tout cela, dans son jardin, un temple. Le temple de l'Esprit. Et qu'il mange des fruits excellents. On a souvent considéré que le réveil spirituel, eh bien, était fait que de puissance. Était fait que de choses extraordinaires manifestées dans le Nouveau Testament à travers les dons de l'Esprit, dons de révélation, dons de puissance et dons de manifestation vocale, telles que la prophétie, parler en langue, son interprétation et tout ça. Mais je constate que nous sommes invités à manger des fruits excellents. Les dons, les œuvres, c'est une chose, les fruits, c'en est une autre. Alors voilà pour la première chose, première proposition. La deuxième, nous allons la trouver dans le livre de l'Apocalypse. Je vous en ai parlé il y a un instant, ça fait écho justement à ce fameux passage donc de Cantique des Cantiques, au chapitre 22. Alors, c'est pas trop difficile parce que c'est la dernière page de notre Bible. Alors, vous prenez tout simplement le livre par la fin. Et au verset 17, nous avons ce correspondant de ce que nous avons lu il y a un instant. Il y a le bien-aimé et il y a Sulamite, la fiancée. Écoutez bien ce qu'il dit au verset 17, 22, 17, Apocalypse. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui prenne de l'eau de la vie, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Et verset 20. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Et le soupir qui monte à ce moment-là du cœur de l'Église, de l'épouse, de la fiancée, c'est, amen, viens, Seigneur Jésus. Alors ça, c'est un soupir. Et puis le dernier soupir, c'est celui qui nous est instruit par l'apôtre Paul à travers l'épître aux Romains. Et vous le connaissez parce qu'il sert souvent de référence à nos réunions de prière. Il est dit ceci, Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. La faiblesse produit des soupirs. Elle nous donne de soupirer. Alors, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, en sachant que celui qui sonde les cœurs, Dieu, connaît la pensée de l'Esprit parce qu'elle vient de lui, et c'est parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints, en faveur des chrétiens, en faveur des hommes qui croient en Dieu. Voilà, on a fait le tour maintenant de la présentation. Je pense que c'est quand même important. Quels seraient, ou je vais peut-être parler plus précisément, quelles sont les caractéristiques d'un authentique réveil? On en a besoin, n'est-ce pas? Le monde en a besoin, l'Église en a besoin. Et plus on se rapproche du retour de Jésus, plus normalement nous devrions soupirer après son retour et regarder vers le ciel, parce qu'il reviendra de la même manière qu'il y est monté, alors à ce moment-là, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a de moins en moins de soupirs. Les gens soupirent, ou parfois l'Église, ou les enfants de Dieu soupirent après des choses secondaires. Oui, on est en attente permanente, mais de choses qui passeront. Par contre, dans les temps dans lesquels nous sommes, temps ultimes, qui finalement sont tellement marqués par des avertissements et des signaux qui nous montre la proximité du retour de Jésus, alors on devrait soupirer après ce réveil spirituel, après cette venue du Seigneur. Quand on voit que le monde s'appesantit dans le mal, alors je voudrais vous donner 8 points de reconnaissance d'un véritable réveil. Parce que il faut quand même reconnaître que depuis quelques décennies, le peuple de Dieu, les pasteurs en particulier, se sont évertués à reproduire le réveil, à fabriquer un réveil, à courir le monde pour importer un réveil dans notre société moribonde. Alors, on va voir ça très rapidement. Vous allez, parce qu'on va aller aux commentaires après, mais d'abord, le véritable authenticité d'un réveil, c'est la manifestation de la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Et il envoie le réveil quand il veut. Quand il veut. Le réveil se caractérise également par un retour à la lumière que nous procure sa parole. Oui. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Nous connaissons tout cela. Le troisième point de reconnaissance, c'est une œuvre de triage, le réveil, et de séparation nécessaire. L'Église est appelée hors d'eux. C'est-à-dire que nous ne sommes pas du monde, bien que nous vivions dans le monde, que nous avons des implications dans le monde par le fait de notre humanité, mais nous sommes d'un autre monde. Nous faisons partie d'un autre royaume, d'une autre planète en quelque sorte, et il y a nécessairement, eh bien là, un triage. En quatrième point, c'est une œuvre de séparation, pardon, c'est une œuvre de réparation et de réconciliation. Alors une Église doit présenter un visage uni devant le Seigneur, pas un visage divisé. Un visage uni dans l'amour, dans le respect de sa parole, dans le respect de ce que peut représenter mon frère et ma sœur. Et ça se caractérise par là. Au moment quand il y a un véritable réveil authentique, les enfants de Dieu se rassemblent. Et ils s'entendent, et ils s'accordent, et ils œuvrent, ils louent, ils prient, ils adorent ensemble. Le réveil met la vérité essentielle de la foi en évidence. Ouais. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par les œuvres. C'est véritablement une faveur de Dieu. C'est un don de Dieu, la vérité de la foi. Il n'y a que ça. Et à chaque fois que l'Église, dans son histoire, est revenue à la parole et a redécouvert la puissance de la foi, alors à ce moment-là, le réveil est venu. On va un peu plus loin. Le réveil est une œuvre de libération. Il y a les malades guéris. Il y a des libérations morales, des délivrances, toutes sortes de choses semblables qui remplissent les pages de nos évangiles et du Nouveau Testament en particulier. Ça souffle du nord, ça souffle du sud, ça souffle de tous les côtés, mais ça souffle. Et c'est Dieu qui envoie cela. Et il y a des choses concrètes que l'on appelle, eh bien, les œuvres de Dieu manifestées par les dons de l'Esprit. Le réveil rend conscient de la nécessité du salut. Partout où il y a un réveil authentique, les gens se convertissent à Jésus-Christ. Ils se repentent de leurs péchés, ils se courbent devant Jésus et ils naissent de nouveau. Ils sont baptisés du Saint-Esprit. Avant-dernier point, c'est un souffle qui inonde et qui donne la vie à tout ce qui est latin. Dans un des prophètes, me semble-t-il, ça doit être Ézéchiel, le prophète voit un fleuve. Et ce fleuve, eh bien là, inonde toute la terre. Ça commence par Jérusalem, c'est un torrent. Vous connaissez l'histoire du torrent du prophète. Et tout ce que l'eau de ce torrent touche, tout est purifié. Et il apporte la vie. Là où il y avait la mort, eh bien il y a la vie. Ça, c'est la caractéristique d'un véritable réveil. Et puis le dernier point, c'est que le réveil n'est aucunement, écoutez bien, parce que là je crois que ça faut remettre les choses en place, n'est aucunement une programmation ou une organisation humaine. C'est une illusion. Alors on a entendu par-ci, par-là, à grand renfort de publicité, de propagande, même de jugement sur ceux qui étaient un petit peu dubitatifs et ceux qui étaient hésitants à y croire, on nous a dit, mais attention, il y a ceci, il y a cela, nous faisons ceci, nous faisons cela. C'est totalement et complètement faux, parce que ce genre de mouvement prétendu venant de l'esprit, c'est un très vite et il ne laisse aucune trace, sinon des divisions. Je dis bien des divisions. Alors, ceci dit, nous amène tout simplement à considérer les promesses qui introduisent ou tout simplement nous préparent au réveil. Il y a des résultats intérieurs. Écoutez bien, c'est le fruit. Ézéchiel, je le disais tout à l'heure, Ézéchiel verset 26, vous connaissez ce texte, mais je le rappelle pour mémoire parce que c'est important. Alors lisons ça. Dieu dit par Ézéchiel, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez mes lois. Retour à la parole, on est bien d'accord par rapport à cette affirmation. Et puis, un peu plus loin, au verset 34, il nous est dit ceci, simplement, constatation, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, une œuvre de purification. Je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. C'est une restauration. La terre dévastée sera cultivée. Là où il y avait, improductivité, il va y avoir du fruit. Tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants et l'on dira, cette terre est devenue comme un jardin d'Éden. Voilà. Le souffle qui passe, le souffle de Dieu qui vient, le réveil du Saint-Esprit, amen, redonne la vie, là où elle n'était plus. Cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden, et ces villes ruinées, désertes, abattues, sont fortifiées, abattues, et les nations qui resteront autour de vous seront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu, et planté ce qui était dévasté, moi, l'Éternel, j'ai parlé, et j'agirai. Le réveil, c'est cela, frères et sœurs. C'est Dieu qui le fait, c'est pas l'homme. Mais, vous avez remarqué, l'œuvre de Dieu est souveraine, mais nous, nous sommes entre ses mains pour lui permettre de ramener la vie. Et ça passe par le fruit. Un réveil qui n'est pas caractérisé par un fruit spirituel, par le fruit spirituel, par le fruit de l'esprit, il manque quelque chose. Il manque l'essentiel. Oui. Je mettrai un cœur nouveau. Je vous donnerai un esprit nouveau. Là où il y avait de la haine, il y aura de l'amour. Là où il y avait de la tristesse, il y aura de la joie. Là où il y a de l'indifférence, il y aura de l'intérêt pour Dieu, naturellement. Et ça, c'est quelque chose de formidable et d'extraordinaire. Et ça commence par le fruit. C'est pour ça que nous l'avons lu dans Cantique des Cantiques. Que mon bien-aimé entre dans le jardin et qu'il mange des fruits excellents. Après viendra les dons. Mais le fruit, Dieu commence d'abord à l'intérieur de nous-mêmes pour que ça se répande à l'extérieur. L'Église est un témoignage à l'extérieur. Elle n'a pas besoin, le monde n'a pas besoin de l'Église pour voir des miracles. Ils vont chez les occultistes, ils vont voir et ceci et cela. Le monde est capable de faire des miracles, le diable est capable de faire au monde et aux hommes des miracles. Mais la grande différence, c'est qu'il faut que le miracle il commence par l'intérieur. Et ça, c'est autre chose. Et la préparation d'une Église, c'est une préparation de l'Esprit déjà à l'intérieur de nous-mêmes. Et puis, il y a les résultats extérieurs, comme nous pouvons en juger dans le Nouveau Testament, au chapitre 5, et au verset 16, parce que ce texte, il est quand même très intéressant à prendre en considération dans notre réflexion, où il est dit ceci, cette parole, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, il y a l'unité là, et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Est-ce que ce n'est pas ce que nous voulons dans un réveil ? Est-ce que c'est parce que nous attendons dans nos temps de désertification et de sécheresse dans nos églises où il y a plus de chaises vides que de chaises pleines? Eh oui. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus, de sorte qu'on apportait des malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes afin que lorsque Pierre passerait, ne regardez pas à l'homme, mais regardez à celui qui est au-dessus de Pierre. Son nombre au moins en couvre quelques-uns. La multitude accourait aussi des villes voisines, Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tout s'était guéri. Alors le fruit et le résultat, les œuvres, ça, c'est le réveil. Imaginez-vous que notre rue Ypres soit quadrillée par un cordon de police pour filtrer les gens, pour venir se faire imposer les mains. Wow, quelque chose. Eh oui. Mais le réveil, c'est ça. Alors, on va aller un peu plus loin dans notre réflexion, parce qu'il ne faut pas partir sur des préjugés ou partir sur des conceptions qu'on aurait lues dans certains bouquins qui sont écrits à foison aujourd'hui sur des méthodes et des techniques de réveil. Si nous faisons ceci, si nous faisons cela, etc., etc. Je voudrais vous rappeler, notre marche est la marche par la foi. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les accomplissions. C'est Dieu qui accomplit les choses et ce n'est pas nous. Alors des recettes, il y en a, des méthodes, il y en a, qui tournent la tête aux enfants de Dieu et voire même aux enseignants de la Bible. Qu'est-ce qu'un réveil? Je vais répéter. C'est une intervention divine par la puissance du Saint-Esprit dans la vie des enfants de Dieu, donc de l'Église, et qui est portée jusqu'aux extrémités de la terre. Je rappelle un fait que nous n'avons pas connu, mais qui est récent et qui est à l'origine de ce que nous sommes aujourd'hui, nous, les charismatiques, chrétiens, évangéliques, charismatiques, pentecôtistes. C'est qu'en 1906, quand il y a eu le réveil, à la fois aux États-Unis et au Pays de Galles, dans des temps épouvantable de désert spirituel, eh bien on s'aperçoit que ce réveil a parcouru le monde entier. Ce n'était pas seulement local, mais c'était international. Oui, international. Alors, quelquefois, nous disons, Seigneur, tu bénis notre Église, mais si nous sommes bénis, il y en aura d'autres qui seront bénis autour de nous. Hein. Et Dieu soit béni que ça se répande. Ce n'est pas seulement pour nous. Oh, on pourrait trouver dans l'orgueil. Et quelquefois, on regarde où ça marche dans un endroit localement en disant, mais lui, il a réussi, alors on va prendre ses méthodes, parce que s'il a réussi, eh bien, il faut qu'on réussisse aussi. C'est complètement aberrant comme histoire. Parce que le Seigneur, faut savoir si c'est un Dieu qui se met dans un petit coin et qui reste dans son petit coin, ou alors c'est le Dieu de toute la terre et le Dieu de l'univers. Et quand Dieu bénit, eh bien, il bénit tout l'ensemble. Et le XXe siècle, s'il y a eu autant d'atrocités dans l'histoire, il y a eu aussi un souffle de l'esprit qui a donné la vie à des millions et des millions de gens. C'est extraordinaire, ça. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des choses, et l'esprit parcourra la terre. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, nous sommes certainement dans l'essoufflement de ce premier réveil, enfin, de ce réveil-là, et nous en avons besoin parce que le Seigneur revient bientôt. Et il faut qu'il trouve l'Église réveillée. Il faut que les vierges sages, comme on le disait vendredi soir, se réveillent aussi de leur assoupissement. Et c'est Dieu qui va le faire. Je l'ai dit dans l'explication entre Ézéchiel et puis le livre des Actes, c'est un mouvement qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Oui. Et je crois que le fruit de l'esprit précède le don de l'esprit. Et ils doivent fonctionner ensemble. C'est un renouveau, on va l'expliquer par des mots, un souffle frais qui vient directement de Dieu. C'est le vent Aquilon, le vent du nord. Vous savez qui apporte de la fraîcheur là où il y a de la sécheresse et de l'aridité. Oui, Aquilon. Un souffle frais. C'est une expérience unique, précise et pratique. Ce ne sont pas des mots ni de la théologie. L'origine et la caractéristique de tout vrai réveil portent l'empreinte de la parole de Dieu. Et Dieu approuve sa parole en la confirmant. La parole de Dieu. Et autant que nous puissions ne jamais l'oublier, ce qui est demandé aux prédicateurs, aux pasteurs, c'est pas de faire ceci et cela, mais qu'ils s'attachent à leur enseignement et d'enseigner le peuple, d'enseigner le monde et d'enseigner les hommes qui sont autour de nous à travers la voie de l'évangélisation, mais d'enseigner la parole. Et c'est là que viendra la foi. Et le premier pas du réveil commence par l'enseignement de la parole. Apportez la parole de Dieu et les gens se convertiront. Vous allez me dire, c'est pas tout à fait ce qui se fait. Hein. Mais écoutez, comptons davantage sur le Seigneur que sur nous. Hein. Parce qu'autrement, je vous dirais qu'il y a longtemps que j'aurais baissé les bras moi aussi. Mais je crois dans le Seigneur et je crois dans ses promesses et je crois encore au réveil qui vient du ciel, qui vient de Dieu. Alors, Dieu apporte l'approbation sur sa parole qui est prêchée. Et cela se manifeste à la fois par des fruits dans l'intérieur de nos vies et par des dons pour l'extérieur. Un réveil, c'est le fruit d'une préparation dans la supplication et la prière dirigée vers Dieu. C'est, me semble-t-il, Zacharie qui dit ceci à un moment donné. Je ne sais pas si je vais retrouver la citation, mais ça n'a pas d'importance. « Je répandrai sur vous, Israël naturellement, mais pour nous, je répandrai sur vous un esprit de grâce et de supplication. » Combien avons-nous besoin de sentir au fond de nous-mêmes que le Seigneur nous interpelle pour prier les uns pour les autres, pour prier pour le monde, pour prier pour... Alors, quelquefois, nous ne savons pas, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, nous ne savons pas toujours ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit, par des soupirs inexprimables, connaît la pensée de Dieu. Et c'est lui qui va nous amener dans une langue, qui est la langue du ciel, le parler en langue. Je soupire, Seigneur. Donne-moi de soupirer pour le salut de ceux qui sont autour de nous. Donne-moi de soupirer peut-être pour une telle ou telle autre personne. On peut soupirer dans la généralité, mais on peut soupirer peut-être pour un de nos enfants, de nos fils, de nos filles, peut-être pour un ami, pour quelqu'un que nous avons à cœur, que Dieu nous a mis spécialement à cœur. Et on soupire pour cette personne. Ça vous est jamais arrivé, ça? Mais bien sûr que ça vous arrive. Et ça, c'est un signe de vie, parce que quand on soupire pour plus rien du tout, ça, c'est grave, hein. Parce que c'est peut-être le dernier soupir à ce moment-là. Hein. Alors, on a justement eh bien, cette remise en place de ce que peut être véritablement eh bien, le réveil que Dieu attend. Soupirer, non pas dans un but intéressé de dire, eh bien, moi dans ma vie j'ai vu le réveil et j'en suis fier, c'est pas de voir ou pas. Ça doit être pour la gloire de Dieu et pour le salut des âmes. Ça, c'est important. L'attente du réveil se passe par contre dans des dispositions d'humilité. Si j'attends le réveil pour me glorifier, si j'attends le réveil pour que l'église à laquelle j'appartiens ou la communauté à laquelle j'appartiens puisse dire, eh bien, nous avons vu un réveil. Nous sommes les auteurs d'un réveil ou nous sommes finalement, eh bien là, en quelque sorte, les éléments d'un réveil. C'est pas pour ça. L'humilité préside à toute chose. Soyons modestes. Jusqu'à ce qu'il bénisse, il ne doit pas y avoir ni arrogance, ni fièvre délirante ou intempestive, sans tapage. Et j'ajouterai ceci, aucune doctrine sociale, aucune philosophie humaine, ou encore une interprétation particulière, n'y trouve sa place dans le réveil de Dieu. Ouais, ça ne marche pas. Ça vient du ciel, tout simplement. Il n'existe pas de spécialiste. Qu'il s'appelle prophète, apôtre, pasteur ou tout ce que vous voudrez, il n'existe pas de spécialiste ou de technicien du réveil. Et il y en a eu des techniciens du réveil ou des spécialistes qui ont écrit des bouquins autant que vous voulez. La repentance générale produit un mouvement général. Quand l'Église se courbe devant Dieu, alors à ce moment-là, il va y avoir quelque chose qui va se passer. En nous, mais autour de nous, où personne ne peut finalement affirmer être ou faire ceci et cela. C'est Dieu qui fait. C'est tout. Tout simplement. Le réveil est une vraie œuvre du Saint-Esprit de Dieu qui passe fréquemment par le chemin de l'opprobre et de l'opposition, voire même de la moquerie. Ouais. C'est pas facile d'attendre, hein. C'est pas facile de soupirer. C'est pas facile de se tenir dans la prière, dans la régularité. C'est pas facile de se discipliner soi-même. C'est pas facile de pouvoir, finalement, eh bien, voir d'autres qui sont autour de nous, et puis nous sommes dans l'attente, et nous soupirons et nous souffrons. Oui, ça passe par l'opprobre. Regardez les disciples dans le livre des Actes des Apôtres. Ils passaient par un véritable réveil, authentique après la Pentecôte. Mais je peux vous dire que les uns étaient mis en prison, Jacques a été décapité, Étienne a été lapidé, et puis ceci et cela. Hein. Parce que ça dérange le monde. Et le véritable réveil, il dérange le diable. Surtout. Et je crois que tout cela, eh bien, c'est en quelque sorte, toute cette préparation, comme une sorte de labourage de nos cœurs et de nos âmes, dans nos consciences également, qui produit la réceptivité à la parole de vie et qui amène la fécondité. Oui, c'est ça, hein? Parce que le réveil qui vient de Dieu, il est fécond. Sans le souffle de l'Esprit de Dieu, l'homme confesse la mort, parce qu'il n'est que mort. Il n'est qu'une inutilité dans les choses de la dimension spirituelle. Son impuissance est manifestée et la stérilité inhérente à la nature humaine. Il ne peut rien faire. Il pourra peut-être faire des œuvres mortes, et il en fait, que l'on appelle des œuvres religieuses. Mais c'est une autre dimension à laquelle nous sommes appelés. Et il y a finalement, eh bien, à ce moment-là, par l'Esprit de Dieu en nous, un désir ardent de porter du fruit et de vivre une consécration totale. Peut-être plus les plus anciens qui ont connu le souffle de l'Esprit aux origines de notre mouvement, je peux vous dire que c'était tellement beau, tellement fort, tellement haut, et tellement fructueux, tellement étonnant, extraordinaire, surnaturel. Alors, la question de la consécration des chrétiens ne se posait pas. Il y avait un lieu, tous les jours, dans certains cas, tous les jours, qu'ils le rejoignaient aussi fréquemment que leur maison, c'était là où était invoqué le nom du Seigneur. Et il se passait des choses extraordinaires. Ils n'avaient pas besoin de distribuer les prospectus ou faire de la propagande sur Internet. Les gens étaient poussés par l'esprit, par le témoignage qui était répandu, et les gens venaient, tout simplement. Et ils se faisaient des signes, des prodiges et des miracles au nom de Jésus-Christ. Voilà. Ça semble si difficile pour nous, mais quand il y a un réveil spirituel, ça se fait tout seul dans la simplicité. Parce que au poste de commandement, ce n'est pas nous, c'est le Seigneur. On a vraiment besoin de vivre quelque chose de semblable, frères et sœurs. Et je peux vous dire que, sans négliger nos obligations familiales, sans négliger nos obligations sociales, professionnelles, on trouvera toujours du temps, quand il y a un souffle de l'esprit, finalement, eh bien, se rassembler pour prier et louer le Seigneur, ou pour venir à des réunions d'évangélisation. Parce que ça se fait naturellement. Et il n'y a que cela qui compte. Ouais, Seigneur, envoie dans notre monde, envoie dans notre désert un souffle de l'esprit. On en a véritablement besoin. Et c'est extraordinaire. Parce que là, la fatigue disparaît. Nos préoccupations et nos soucis disparaissent. On voit tellement de choses. On entend tellement de choses qui viennent de l'esprit. Vous savez que nos plus grands cantiques et nos plus beaux cantiques ont été souvent inspirés dans des moments où il y a eu l'onction du Saint-Esprit. Eh oui. Ces cantiques, on les chante encore, hein, parce qu'il y a quelque chose de fort à ce moment-là. Je voudrais vous laisser une image, puisqu'on était parti dans un jardin. On était parti dans les parfums, et on était parti dans les fruits. Alors, cette image, je dirais que le réveil est l'exact parallèle avec le processus de la nature. Bien que les choses d'en bas sont des choses d'en bas, mais les choses d'en haut sont les choses d'en haut. Mais je crois que, avant tout, les premières, ce sont les choses d'en haut, et puis ça a été calqué pour les choses d'en bas. On pourrait dire cela. Je voudrais vous parler des cycles des saisons. On a déjà parlé de ça, mais je commencerai par l'automne. Parce que l'automne, c'est un peu la saison où tout va mourir. Hein. Comprenez ? Tout s'essouffle. La nature est fatiguée. Oui, c'est l'automne. Le soleil commence à disparaître, la nuit s'approche de plus en plus. On va arriver vers les frimas. Alors l'automne, on va commencer par là. Mais l'automne, c'est encore un temps de travail. C'est un temps d'attente, mais un temps d'attente très lointain. Parce que c'est l'enfouissement de la semence, c'est le retournement de la terre, on y fait des sillons dans la terre, et on va y déposer eh bien, la graine dont Jésus nous en parle admirablement. Quand il nous parle du grain de blé, s'il ne meurt, il reste seul. Mais par contre, s'il meurt, alors à ce moment-là, il va porter du fruit. Ça, c'est l'automne. L'automne, c'est dans notre vie. L'automne, c'est peut-être aussi la vie de l'Église. Et je pense qu'aujourd'hui, nos églises sont à l'automne. Ne nous méprenons pas sur le calendrier. Et puis après vient l'hiver. C'est une sorte de mort, l'hiver, parce que tout s'arrête. C'est la froidure. C'est le vent d'Aquilon qui, là, eh bien, est particulièrement mordant. C'est la bise. C'est la tristesse d'hiver qui amène à soupirer après la saison suivante. Et c'est une longue attente. Et pourtant, c'est comme ça. Et je crois que l'histoire de l'Église est réglée à travers aussi cette image très forte que nous connaissons très bien, qui est la saison autour de nous. Or, le renouvellement de la vie apparaît au printemps. On soupire après le printemps. On a eu un hiver rigoureux jusqu'à maintenant. Hein ? C'est vrai. C'est le renouvellement, et ça c'est inscrit en chacun d'entre nous. Renouvellement de la vie qui apparaît donc. Et qu'est-ce que l'on fait au printemps ? Eh bien, ce sont les travaux, entre guillemets, préparatoires, qui permettent l'éclosion lorsque, finalement, l'éclosion laquelle éclosion se poursuivra jusqu'au cœur de l'été, où cette préparation, en tous les cas, ça donnera un fruit, avec un déferlement d'abondance en été. Et c'est à l'heure, le temps de la moisson, de la récolte et la vendange du fruit. Donc, il y a tout un cycle comme ça, j'essaie de le dire simplement. Et dans l'Église, il y a des temps comme ça. Il y a des temps d'automne. Il y a des temps d'hiver. Je ne me demande pas si on n'est pas en hiver sur le plan spirituel dans nos pays et dans notre monde. Mais il y a toujours un printemps derrière. Et puis l'apothéose, c'est lorsque le vent d'automne souffle l'été. C'est chaud et il faut de la chaleur. L'humidité du printemps, la chaleur de l'été, et ça vous donne des fruits. Alors, frères et sœurs, je crois qu'il est important que nous ne nous méprenions pas et que nous nous calquions surtout sur le calendrier de Dieu. On est dans un temps de difficulté, on est dans un temps d'absentéisme, on est dans un temps où finalement, eh bien, on se dit, mais qu'est-ce qu'est l'Église? Qu'est-ce qu'est devenue l'Église? Regardez au Seigneur et faites confiance au Seigneur. Parce que ça, c'est l'important. Parce que si nous ne sommes pas positifs, nous allons avoir des gelées tardives. Comprenez? Et quand il y a déjà des tardives, ça tue le bourgeon, ça tue le fruit et il n'y aura pas de récolte. Et ça, c'est une question de foi. C'est une question de confiance. J'en dirai deux mots d'ici quelques instants, de la manière dont nous pouvons quelquefois réfréner ou arrêter ou stopper ou retarder le réveil de Dieu. Il y a tout un processus de l'automne, de l'hiver, du printemps et de l'été. Et l'été, c'est l'apothéose des saisons. L'été, c'est l'image quand l'Esprit de Dieu souffle, c'est le temps du réveil, tout simplement. La floraison du printemps prime, et on appelle ça des primeurs, naturellement. Ce n'est qu'un avant-goût de la moisson. Un souffle, une visitation de l'Esprit n'est pas un réveil. On en a pourtant besoin, et on peut s'y attendre, mais ce n'est pas un réveil. Un réveil, c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus fort. C'en est que le signe annonciateur, si dans ce début de saison qu'est le printemps, je l'ai dit il y a un instant, il n'y a pas de gelée tardive qui compromette tout. Et comprenons bien la pensée de Dieu. Ce que nous avons besoin de demander tous les jours dans nos prières, et je crois que ça c'est une nécessité, donne-moi, Seigneur, l'intelligence des choses qui t'appartiennent. Donne-moi de percevoir et de comprendre comme toi tu veux que je comprenne. Pour que je puisse être dans ton œuvre efficace et non pas un frein. Parce que quelquefois on dit, mais Seigneur, tu te rends compte, il ne se passe rien. Alors on va trouver des arguments, parce qu'on ne prie pas assez, parce qu'on ne fait pas ceci, parce qu'on ne fait pas cela, etc. Écoutez, frères et sœurs, si le Seigneur veut nous réveiller dans la prière, il va nous réveiller si nous le désirons. Hein. D'accord? Ce n'est pas à nous de vouloir essayer de forcer les choses. Parce que vous savez, quand l'Esprit vient sur nous, quand nous sommes chargés et que nous soupirons, mais la prière, elle vient toute seule. Hein. Et il va nous conduire dans telle prière, il va nous conduire dans telle direction, et ça va jaillir à un moment donné. Moi, je ne discute pas sur ce que peuvent faire les autres. Mais quelquefois, il est bon d'entretenir une vie de prière en Église. Il est bon d'entretenir notre vie individuelle, personnellement. Ça, c'est sûr. Mais quelquefois, on multiplie, on se demande quelles sont les raisons réelles de tous ces forcings spirituels que l'on impose parfois aux chrétiens, dont on leur dit, bien voilà, parce que vous avez fait ceci, il va y avoir cela. Vous savez, on l'a vécu, on a fait plusieurs campagnes d'évangélisation pendant des années. Et faisons attention de la manière dont nous conduisons les choses. Il est bon d'avoir de la régularité, d'avoir des programmes, je dis des programmes d'évangélisation, ceci et cela. On s'est tenu dans certaines œuvres qui étaient des œuvres extrêmement difficiles. Je dis bien extrêmement difficiles, ce n'est pas un euphémisme. On mobilisait l'Église. On avait des temps de jeûne et prière. Des temps de prière intense. Alors tout le monde pensait qu'à la fin, avec un temps de prière comme ça, le Seigneur enverrait un souffle d'esprit dévastateur, pour vaincre le diable. Et que là, il y aurait des dizaines et des centaines de personnes qui viendraient aux réunions. Combien avons-nous vécu de situations où nous sommes tenus, nous avons pleuré, nous avons supplié le Seigneur. Nous faisons une mission pendant 4 jours, Seigneur. Et là, nous avons mis tout, des centaines et des milliers de prospectus. On a battu la campagne, etc., etc. Et à la fin, pas une personne n'est venue. Alors je dis qu'il y avait ce genre de démarche, que je reste tout à fait conscient qu'il fallait la faire. Mais quelquefois, on comptait beaucoup plus sur nous, avec nos jeûnes, nos prières, ceci, cela, que sur la grâce de Dieu. Et je vous choque, hein ? Oui. Ah oui. Il y aurait plus d'un pasteur qui n'ose pas le dire, mais qui n'ose pas le dire, mais qui pourrait le dire. Seigneur, que ce ne soit pas mon esprit, nos esprits, mais que ce soit ton esprit qui nous conduise. Et ça, c'est la différence. Et qu'est-ce qui se passait après ce genre de mission et d'opération, où les frères et les sœurs de la petite église dans laquelle nous étions, ils étaient gonflés à bloc. La veille, le vendredi soir à 20h30, où il y avait la première réunion, gonflés à bloc. Tout le monde regardait un petit peu pour voir s'il y avait des gens qui venaient. La place du mail était toujours vide. Eh oui. Ça va, on a pleuré, hein. Et à la fin de la mission, quand on faisait le compte, pas une personne n'était venue. Et Alain, après la dernière réunion, je ramassais les chrétiens en miettes, en disant c'est plus la peine, on est fatigué, on n'en veut plus, le Seigneur n'a pas entendu, et ceci, cela. Et à chaque fois, on refaisait une mission, parce qu'on ne voulait pas céder. Comprenez ? On ne voulait pas céder. Il fallait continuer. Mais Seigneur, pourquoi tu n'as pas entendu ? Pourquoi tous ces prospectus ? Pourquoi ceci et cela ? Et ça n'a rien donné. Alors on se sent abandonné quand c'est comme ça. On se sent abandonné. Moi, de plus en plus, dans mon ministère pastoral, il y a la part de l'homme. Elle est nécessaire. Je réponds en obéissance à ce que le Seigneur me demande. Mais Seigneur, avant, je ne veux pas décréter une chose que tu ne m'as pas demandée. Parce que moi, je crois à l'authenticité d'un temps ou d'un qui va nous surprendre. C'est que le Seigneur fera l'œuvre quand il voudra et comme il voudra. Pourvu qu'il nous trouve sur place. Pourvu qu'il nous trouve encore dans l'espérance, dans la foi. Parce que ce genre d'opération, remarquez, c'est un test, hein. Parce que les chrétiens, ils ne se sont pas découragés quand même. Ils étaient découragés sur le coup, mais après, ils sont toujours restés, hein. Mais vous savez, je crois que tout cela, eh bien, nous apprend beaucoup de choses. Ce n'est pas nous qui avons Dieu dans notre main. C'est nous qui sommes dans sa main. Envoie ton esprit. Viens, Aquilon. Vent d'autant, viens. Et souffle. Souffle, Seigneur. Et il y a de belles expériences à faire. Et aujourd'hui, je me dis, mais Seigneur, je n'aurais absolument pas. Par où nous sommes passés ? Ça nous a appris beaucoup de choses. Mais une chose qui est certaine, c'est que je veux de plus en plus être dépendant pour ton service de ton esprit. Tout simplement. De ton esprit. Parce que quelquefois, ce sont toutes ces gelées tardives, vous savez, qui tuent le moral, qui tuent l'enthousiasme. Ouais. C'est terrible, hein ? Parce que quand il y a une gelée au mois de mars, et que les arbres sont en fleurs, c'est ce qui risque de nous arriver, il ne restera plus rien après. Ne nous méprenons pas, frères et sœurs. Lorsque nous entendons emprunt d'accent nostalgique, ces soupirs, autrefois, oui, autrefois. Autrefois, Dieu faisait, il y avait ceci, il y avait cela, puis toutes sortes de choses. Je voudrais simplement vous rappeler à ceux qui souffraient de l'autrefois, d'hier, parce que nous souffrons toujours quelque chose. Et je respecte cette souffrance, mais on ne vit pas dans le passé. Non, on ne vit pas dans le passé, et le présent avec Dieu est un éternel recommencement. Et c'est ça ce que je veux vivre. Oui. On a vu des choses formidables. On a vu des églises pleines. On a vu des choses formidables. Mais moi, aujourd'hui, ici à Saint-Nazaire, hier, c'était hier. Aujourd'hui, peut-être, les choses sont différentes. Et elles ne sont pas seulement différentes à Saint-Nazaire, elles sont différentes dans toutes les églises. Hein. Il n'y en a pas une seule qui fait exception. Hein. On se tient quand même au courant de ce qui se passe. Hein. Alors, moi, je dis, c'est aujourd'hui. Et c'est ce renouvellement-là dont nous avons besoin. Et ça, c'est important. Et quand on s'exprime ainsi, on prouve simplement qu'on voudrait que le printemps ne finisse pas. Eh bien, le printemps, le 20 juin, il va finir pour laisser la place à une autre saison. Et il faut être au rendez-vous pour l'autre saison. C'est ça la question. Jamais, jamais il faut baisser les bras. Qu'est-ce que vous en pensez si les fleurs ne fanaient jamais ? Ça serait formidable. Faillite chez les fleuristes. Terminé. Mais pourquoi les fleurs flanent-elles ? Or, si les fleurs ne fanent jamais, il n'y aura pas de fruits. C'est logique. Ça ne peut pas produire si elles ne fanent pas. Le printemps, c'est rester à l'état d'enfance spirituelle. C'est beau le printemps, c'est la fraîcheur, hein, c'est beau. Mais c'est quand même rester à l'état d'enfance spirituelle, avec tous les retards et les dangers qui sont dus à cet âge. Le Seigneur veut nous pousser. Parce que quelquefois on dit, Seigneur, envoie un réveil. Envoie un réveil, Seigneur. Mais est-ce que nous sommes prêts pour le réveil? Et comment nous allons négocier le réveil? Est-ce qu'il y aura des gens sages, des hommes sages, pour gérer un réveil, avec toute l'excitation, avec toute l'exaltation que ça peut avoir? Parce que quand il y a un véritable réveil, vous savez, ça tourne dans tous les sens. Hein. Les Alléluia sont très fréquents à ce moment-là. Hein. On ne sait plus dire que ça. Mais il y a quelqu'un qui est plus sage que nous. Hein. Ça, c'est certain. Raisonner ainsi, à vouloir toujours rester au printemps, eh bien, c'est oublier que Dieu a ses lois et il a ses plans établis. Que la floraison fasse place au fruit et que le fruit enserre en lui-même la graine ou le pépin ou le noyau qui est la promesse de la vie. Ouais, la promesse de la vie. Et il y a une chose que j'ai remarquée, si vous me permettez cette simple réflexion, dans les débuts d'un mouvement comme ça a été le nôtre il y a 80 ans, il y avait beaucoup de choses. C'était le feu qui descendait. Le feu qui descendait. Et je m'aperçois qu'aujourd'hui, l'Église, non pas s'est refroidie, mais elle est passée à un autre stade. Elle est passée à un stade beaucoup plus profond d'enseignement. Parce que quand on voit les premiers prédicateurs des années 30, c'est assez particulier. Ils avaient l'appel de Dieu. Ils étaient souvent saisis comme Paul était saisi. Et sans instruction biblique, sans école biblique, etc., etc. Ils parlaient sous l'onction du Saint-Esprit. Hein. Mais c'était vraiment tous des évangélistes, mis à part quelques-uns qui étaient quand même docteurs de la parole. Mais aujourd'hui, je m'aperçois, sans tomber dans l'intellectualisme, je m'aperçois qu'il y a beaucoup plus de structure, qu'après ces temps d'euphorie spirituelle et glorieuse et divine, l'Église est rentrée dans quelque chose qui la prépare pour le ciel, beaucoup plus que les miracles, beaucoup plus que les clous d'éclat, viendrait-il de Dieu, c'est que l'Église est amenée maintenant, eh bien, à développer le fruit, parce que ce n'est pas la vue qui nous fait marcher, c'est véritablement la foi dans ce que Dieu nous dit. Et je crois qu'on pourra toujours dire, oui, il se passe ceci, il y a de l'immaturité dans les églises. Mais à côté de ça, je peux vous dire qu'il y a une maturité chez certains chrétiens, chez certains pasteurs, avec des enseignements profonds. Et ces enseignements, ils sont faits pour que nous puissions être aussi les témoins. Non pas de choses extraordinaires, mais d'une vie de Christ en nous et qui nous prépare dans notre caractère à ressembler au Seigneur. C'est ce qu'on appelle tout simplement le caractère chrétien. Donc, il y a une étape. On ne peut pas rester petit enfant continuellement. Il faut grandir. On ne peut pas rester adolescent, parce que vous savez, c'est tumultueux l'adolescence. Et quelquefois, on a des enfants de Dieu qui sont vraiment des adolescents prolongés. Hein. Ah oui, le Seigneur nous dit, il faut que tu deviennes un adulte, il faut que tu mûrisses. Eh bien, toutes les saisons que nous avons définies, eh bien, nous amènent justement. Et le réveil dont nous parlons, puisque j'ai associé le fruit et l'œuvre, les dons et les fruits du Saint-Esprit, eh bien, c'est pour nous amener. Tout simplement au caractère même de Christ. Je vais terminer. Je crois que le réveil est un ensemble à long terme, sur le temps, un processus divin et non un accident spontané, une éruption inattendue qui tombe sur l'Église et le monde, qu'on importe ou qu'on exporte. Souvent, dans notre mentalité, on dit « on voit un réveil, il va arriver » et puis on voit quelque chose qui... finalement est spontané, mais c'est pas ça, un réveil. Mais moi, je crois que le Seigneur est déjà en train de préparer le réveil. Le verrons-nous maintenant, peu importe si on le voit pas. S'il y a d'autres serviteurs de Dieu qui viennent et qui viendront, et que certains d'entre vous, peut-être les plus jeunes, peut-être si le Seigneur n'est pas revenu, peut-être dans 10 ans, dans 20 ans ou dans 30 ans, et qu'il y a un réveil, mais ça n'aura pas été le réveil spontané, c'est parce qu'il aura été préparé par toute une suite d'un processus de l'automne, de l'hiver, du printemps et de l'été qui porte ses fruits. Je vais m'arrêter là parce que ça va beaucoup plus loin, mais il est temps. En tous les cas, une chose que je voudrais dire et que je voudrais rappeler, c'est ce qui nous est dit dans le livre des Cantiques, quand il est dit ceci, « Lève-toi, Aquilon, viens au temps, soufflez sur mon jardin et que les parfums s'en exaltent, que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange des fruits excellents. » Le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur veut venir au milieu de son peuple, dans son église, chercher son épouse, et il veut qu'elle soit parfumée. Des parfums s'en exaltent. Et le parfum de Dieu, ce sont les prières, ce sont les actions de grâce, c'est la louange, c'est la transformation du caractère, c'est la douceur, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la bonté, c'est la fidélité, c'est la tempérance. C'est ça les parfums de Dieu qui se manifestent dans son Église. Alors à ce moment-là, eh bien la réponse, que mon bien-aimé entre. Oui, viens Seigneur Jésus, reviens bientôt, reviens bien-aimé, entre dans ton jardin. Rentre, pénètre dans ton église et que tu puisses manger ces fruits excellents. Ce sont les siens, les fruits. Ce n'est pas ceux que nous avons fabriqués. Qu'il mange ces fruits parce que lui, il est le jardinier. Il est celui qui a pris soin, eh bien, de ce jardin. Alors, disons et proclamons cette dernière parole de la vie parce qu'elle nous introduit dans la dimension de l'éternité. L'église, l'esprit, dit, viens Seigneur Jésus, oui, reviens bientôt. Reviens bientôt parce que nous soupirons après toi. Alors que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse et que Dieu nous montre qu'il y a une conduite, qu'il y a une direction, il y a un plan, quelque chose de bien précis et ne restons pas en arrière. Et que nous puissions vraiment, eh bien, soupirer après ce réveil. Soupirer le réveil de l'esprit, pas le réveil des hommes, mais le réveil de l'esprit. On va prier simplement pour terminer ce moment de réflexion. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce qu'il est long ce chemin, le chemin d'une vie, le chemin de l'histoire d'une église, le chemin de l'humanité à travers, en effet, eh bien, tout ce qui peut s'y passer, le chemin des enfants de Dieu. Nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que c'est toi, Seigneur, qui nous a rappelé ce matin que le réveil, le véritable réveil, l'authenticité du réveil de l'esprit, c'est véritablement, Seigneur, lorsque toi-même, eh bien, tu en prends le pilotage, le gouvernement, Seigneur. Alors nous sommes des hommes. Et si nous pouvons nous en souvenir, comment sommes-nous venus à la nouvelle naissance? On n'avait même jamais entendu parler de ce mot avant d'ouvrir la Bible. On l'avait peut-être entendu et vu chez les autres, mais pour nous, on en était complètement ignorant. C'est toi qui es venu, ce n'est pas nous qui sommes allés à toi. Alors nous voulons te rendre grâce et te remercier. Et puis, devant peut-être le questionnement, les perplexités, Seigneur, de l'état actuel de l'Église, alors nous pourrions pleurer tous les jours. Nous pourrions nous lamenter. Nous pourrions, eh bien là, en effet, cultiver un jardin de défaite. Oui, faire pousser des plantes de défaite, d'incrédulité, de scepticisme, de doute. Mais ce n'est pas cela, Seigneur. Nous voulons croire qu'en effet, Seigneur, c'est particulièrement notre attitude de positivité, notre attitude d'espérance, notre attitude de foi qui va nous conduire et qui va te permettre de nous conduire à la réception, Seigneur, après l'automne, après les froideurs de l'hiver, après le printemps, Seigneur, qui est une renaissance. Eh bien, de pouvoir vivre, de pouvoir découvrir ce que peut être, en effet, eh bien, les richesses et les trésors de l'été quand les fruits apparaissent à travers un réveil. Oui, Seigneur, les fruits et les œuvres, les fruits et les dons, ils vont ensemble. Et nous croyons que les seconds ne peuvent venir que s'il n'y a pas les premiers, c'est-à-dire le fruit intérieur. Alors nous voulons te rendre grâce et te remercier. Oui, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, si tu veux que nous prions beaucoup, eh bien c'est toi qui vas nous demander de nous prier beaucoup. Et c'est toi qui vas nous donner, en effet, Seigneur, la motivation, puisque nous ne savons pas toujours ce qu'il convient de dire dans nos prières, mais l'Esprit intercède. Si tu veux que nous fassions ceci et cela, que nous nous engagions dans telle mission, que nous allions, Seigneur, là, dans un domaine ou dans un autre, non pas par imitation à ce que fait une autre église et qui a peut-être du succès, mais à ce que tu veux spécifiquement ici, alors c'est toi qui vas nous y conduire. Ô Seigneur, nous voulons te faire passer en premier. Trop souvent, les hommes, avec leurs ambitions, avec de nobles ambitions, avec beaucoup de sincérité dans leur cœur, ont fait à la place de Dieu ce que tu ne leur as jamais demandé de faire. Alors, Seigneur, révèle-toi et manifeste-toi. Nous sommes devant toi et nous voulons te dire, Seigneur, à l'instar de ce que le prophète Ésaïe tout simplement nous rappelle, que c'est dans le calme et la confiance que sera notre force, dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Seigneur, nous te bénissons parce que nous croyons à ces promesses. Et plus nous allons, plus nous voulons aller vers des choses simples, mais des choses pratiques, des choses réelles. Nous te remercions et nous te bénissons et bénis ton peuple, bénis ton Église et fais-nous rentrer dans de nouvelles dimensions où le vent Aquilon, où le vent d'autant, Seigneur, eh bien, va apporter toute la richesse et la fertilité du ciel. Merci, notre Dieu. Amen.